Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin.
Ben Simon, bienvenue.
Merci.
Au podcast.
Merci.
C'est fun de t'avoir ici. J'ai juste entendu des bonnes choses sur toi.
Ben, c'est, mon Dieu, tant mieux.
Ouais, ta gérante
oui.
Me dit les meilleures choses de toi, ça fait des...
Ben oui, tu l'as reçu il n'y a pas longtemps.
Ouais, ouais, mais même avant ça, okay. Elle me disait des bonnes choses. Mon ami JC Surrett
oui.
Me dit, tout le monde qui parle de toi dit que tu es vraiment fin, tu es un super bon gars.
Oh oui, Seigneur, tu me mets de la pression.
Non, mais je veux dire, ça c'est bon, que le monde te connaît pas comme un asshole.
Ouais, ouais.
Tu vois, comme lui... C'est pas la même chose. Lui, le monde.
Ah lui, sa réputation, c'est pas terrible.
C'est assez terrible.
Ah oui.
Il travaille sur ça maintenant. Il travaille à l'améliorer.
Ben, moi, à date, tout va bien, là.
Ouais.
Fait que.
Tiens pas trop proche de lui, puis ça
non.
va aller.
OK, c'est bon.
Ouais. Puis comment est-ce que tu trouves jusqu'à date le festival? T'as-tu fait quelque chose ou c'est juste pour le gala que.
À date, moi, je me suis tellement concentré sur le gala. Quand ils m'ont offert d'animer un gala, je savais que ça allait demander beaucoup de travail, puis je savais que ça allait demander beaucoup d'énergie, puis de temps de réflexion, tu sais, parce que j'ai quand même pas eu beaucoup de temps, tu sais, d'habitude. Je pense que d'habitude, les animateurs de gala le savent beaucoup plus tôt dans l'année.
Ouais.
Puis, parce que, tu sais, exemple, moi, je me rappelle, quand moi, je faisais des galas, il y avait des auditions en février, là, donc la machine partait beaucoup plus tôt que cette année. Mais avec la pandémie, tout ça, tu fais juste tellement t'ajuster puis t'adapter depuis un an et demi. Donc, je savais que j'avais pas beaucoup de temps, puis je savais que moi, ça me prend beaucoup de temps à écrire des choses. Mes idées me viennent vite, mais pour les développer sur scène, t'sais, moi, je travaille juste sur scène, j'écris pas sur papier, j'ai pas de... Donc, j'ai besoin de temps de scène pour travailler mes choses. Donc.
Alors, tout ce que tu as pensé à faire sur la gala, est-ce que tu testes ça maintenant sur la scène ou tu essayais de tester ça pendant quelques semaines?
Oui, oui, oui. Moi, j'ai été chanceux quand les shows ont pu recommencer, quand les salles ont ouvert il y a quelques semaines, quelques mois. Moi, ma prod avait, tu sais, ma gérante. Il avait bien anticipé le retour. Donc, j'ai commencé à faire des shows dès que ça a réouvert. Tu sais, puis j'ai eu beaucoup d'opportunités pour roder puis pour travailler mes numéros que je vais faire dans le gala, mes animations. Donc, puis tu vois, on a eu notre rodage la semaine passée à Laval. On fait un show.
Oh, j'étais là vendredi, moi.
Ouais, c'est ça. Ben, ils font un show avec les animateurs puis les invités. Puis ça a été 10 fois en haut de mes attentes. Donc en ce moment, c'est juste de l'attente, c'est juste du être prêt puis être en forme. Puis il n'y a plus, tout est fait.
Oh, mais ça, c'est bon. Ouais. Comment est-ce que tu as vu la pandémie, toi? Est-ce que tu écrivais beaucoup? Tu pensais que tu faisais quoi pour penser à quelque chose d'autre?
Ben, moi, j'ai eu une pandémie spéciale parce que j'ai eu un enfant pendant la pandémie.
Oh, OK. Félicitations.
Merci. Ma blonde est tombée enceinte l'été passé. Donc, tout a arrêté comme en mars-avril. Avril-mai, tout a comme arrêté. Puis en juin, je pense, juin-juillet, j'apprenais que j'allais être père. Donc, moi, quand j'ai eu la chance de refaire des shows pendant la pandémie, ce que je me suis dit, c'est, gars, je vais profiter de ce moment-là. Moi, je veux pas faire mon one-man show. Je veux le faire dans des conditions qui sont bonnes pour ce one-man show-là. Je pense que c'est un show qui mérite d'être vu dans des bonnes conditions. Fait que je me suis dit, en attendant, je vais faire tous les shows que je peux, mais je vais écrire complètement du nouveau matériel. Je vais juste faire une heure de nouveau matériel. Puis là, avec l'anticipation d'être père, tout ça, c'est devenu une source d'inspiration extraordinaire.
Pour cette heure que tu voulais créer.
Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait ça, moi. Pendant un an, j'ai pris soin de ma blonde qui est enceinte, puis j'ai écrit, j'ai pensé à du matériel du nouveau matériel que je me dis, garde, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas. Peut-être qu'après un an, je vais juste arrêter de le faire. Peut-être qu'on va le capter. Peut-être qu'il y a un 15 minutes là-dedans qui va survivre à la pandémie et que je vais continuer à faire. Puis tu vois, c'est un peu tout ça qui est arrivé parce que quand mon one-man show a recommencé, quand ma tournée a recommencé, il fallait que j'adapte mon spectacle parce que ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas fait. Puis je venais d'avoir un enfant, je voulais en parler dans le spectacle. Fait que j'ai pu aller piger dans ces bits-là que j'avais écrit pendant la pandémie pour les mettre, pour les greffer au one-man show.
Alors, le one-man show, maintenant, c'est adapté, puis ce n'est plus le one-man show que tu avais avant. C'est ça, version 2.0.
Ouais, il y a des petits changements, mais la grosse majorité, je te dirais 95% est resté pareil. Puis pas par paresse ou parce que j'avais pas le goût de le changer, mais parce que quand la tournée a recommencé, il a fallu évidemment que j'écoute mon show. Moi, je filme toutes mes shows. Fait qu'il a fallu que je le réécoute parce que je m'en souvenais plus. Ça faisait un an et demi, je l'avais pas fait. T'sais. Fait que je me rappelais évidemment de quoi je parlais. Je me rappelais des bits, mais des subtilités, des petites jokes à gauche puis à droite que tu rajoutes pendant la tournée.
Ouais, ouais, t'oublies tout ça.
Ben non, c'est sûr. T'sais, on fait pas d'humour pendant une semaine puis tu perds tes repères. Fait qu'il met un an et demi. Puis en l'écoutant, je me suis rendu compte à quel point il était vraiment encore très d'actualité selon moi, puis que j'avais rien à changer. J'ai changé une couple de petites choses, une couple de bits là, que j'étais comme ah, ça. Tu sais, quand tu montes une heure, puis des fois, il y a comme un 3 minutes que tu te gardes ça, je vais le laisser comme ça pour l'instant, là, puis un jour, je vais le changer.
Ouais.
Puis 3 ans après, tu ne l'as pas changé. Ben, de prendre un recul pendant un an, ça permet de voir ces petits 3 minutes-là que tu fais comme ça. Je ne l'ai jamais vraiment travaillé. Je l'ai mis là en me disant qu'un jour, je vais le changer. Fait que là, je n'ai profité là pour le changer ou pour l'enlever. Mais 95% du show, là, je l'écoutais puis je me disais comme, Colin, ça marche encore, c'est encore bon, je le trouve encore drôle.
Le monde rit encore, tout le monde.
Oui, tout ce que je dis dedans, je le sens encore, j'ai encore envie de le dire. Il y a juste évidemment le bout sur ma fille que j'ai changé, que j'ai ajusté, puis quelques autres petits bits aussi là, que j'ai modifiés, soit dans le texte ou la façon que je le joue, mais la grosse majorité est pareille.
Puis qu'est-ce que tu penses? Tu penses capter ça bientôt ou tu vas attendre que tout réouvre à full dans un an? Ah, et là, tu le captes vraiment bien?
Ben moi, je veux le capter. Je veux le capter dans une belle condition, mais de toute façon, tu sais, moi, quand la pandémie a frappé, quand tout a arrêté... Excuse.
Moi, je savais pas qu'est-ce qu'il faisait, ouais.
Maintenant que ça, je comprends, ça veut dire rapproche-toi du micro, mais au début, ça veut dire arrête de parler.
Oui, oui, c'est un secret.
Mais là, je fais-tu l'entrevue ou j'arrête de parler?
C'est bon, c'est des secrets. Pourquoi
tu... Mais non, c'est ça, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, c'est que quand la pandémie a frappé, moi, je venais tout juste de lancer mon deuxième one-man show, je venais tout juste de le lancer. Donc, moi, j'avais 2 ans de tournée bookée, là, quand tout ça a frappé. Fait que, là, tu sais, moi, je veux reprendre le beat, je veux retourner dans ma tournée. Donc, tu sais, puis moi, je vais faire ce show-là jusqu'à temps que j'ai l'impression que moi, j'ai passé à autre chose ou que j'ai goût à dire autre chose. Pour l'instant, j'aime encore beaucoup le faire. Puis je me suis pas mis de date. T'sais, moi, je me mets pas de date. Tu sais, moi, mon premier puis mon deuxième one man show, je les ai enlignés. Tu sais, il y a pas eu de break entre les deux. T'sais, même j'ai fait la dernière du premier puis la première du deuxième one man show le même soir.
Oh!
T'sais, j'ai fait comme back-à-back
ça,
direct.
C'est cool.
Ouais, c'était cool. C'était une belle soirée, ça. Puis, fait que je vais faire ça, moi, pour toutes mes one man shows. C'est ça que je veux faire. T'sais, moi, je veux pas faire de break. Je veux pas prendre un an en 2 one man shows. Je veux les aligner. Je veux donner le plus de matériel possible aux gens qui me suivent. Donc, quand je vais sentir que, OK, là, ça commence à s'essouffler un peu, j'ai plus autant de fun à le faire qu'avant parce que là, je l'ai fait beaucoup. Ben là, je vais commencer à écrire le troisième, puis je vais roder le troisième en finissant le deuxième. Puis un jour, le deuxième va arrêter, puis on va le capter vers la fin de tout ça. Là. Donc, est-ce que c'est dans 1 an, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 3 ans? Je ne sais pas, je peux pas te dire. Je ne me suis pas mis de date finale, de deadline à mon show.
Je pense que c'est meilleur comme ça. C'est moins de pression sur toi. Puis, si c'est quelque chose que tu aimes, comme un an, tu aimes l'heure,
ouais,
tu n'as pas comme des limites. « Ah, oh, j'aime faire ça, mais je dois arrêter dans 3 mois. » Ça n'existe pas. C'est, non, moi, je vais arrêter quand je veux plus.
Oui, mais c'est faire. Ça. Puis en plus, ouais, je pense que pour ma prod, qui parce que tu sais, de faire des shows, là, tu ne fais pas juste te présenter à la salle le jour même. Il faut que tu la réserves longtemps d'avance. Puis maintenant, de nos jours, en plus, c'est tellement long. Ouais, moi, j'ai des dates de booking dans 3 ans. Là.
Ouais, je...
Non, mais tu sais, parce que une grosse salle, la grosse salle Albert Rousseau à Québec, là, tu ne bookes pas ça dans 6 semaines. Là. C'est 2 ans, des fois 3 ans d'avance. Donc, moi, ça me permet de dire, faites juste booker des salles. Je sais pas quel show je vais faire. Je sais pas si ça va être le 2e ou le 3e rendu là, mais il n'y aura pas de break. Fait que fais juste booker.
Ça, j'aime ça.
Puis moi, je vais arriver avec un show. Est-ce que ça va être le 2e, le 3e? On verra. Mais fait que ça me permet juste de pas avoir à me casser la tête. Parce que moi, j'aime beaucoup mon métier. C'est ma passion. Mais tout ce qui entoure, toute la vente de billets, puis la production, puis les cibles, tout ça, là, ça me stresse. Je ne veux pas penser à ça.
Moi non plus.
Exact. Moi, je veux juste du monde alentour de moi, ouais, qui connaisse ça. Je leur fais confiance. Fait que moi, c'est ça. Je leur dis, regarde, moi, booker des shows, puis moi, je vais être là avec un show. Je ne sais pas ça va être lequel.
Mais ben, t'es chanceux parce que tu as une bonne équipe. Je les connais, ton équipe. Ouais, tout. Ta gérante, c'est une de mes personnes favorites dans toute l'industrie.
Mmh.
De loin.
Puis, je pourrais pas trouver une personne qui peut dire un mauvais mot. Mais c'est parce que c'est quelqu'un. Mylène, elle a commencé en tant que passionnée de tout ça. T'sais, c'est pas une fille qui a fait son cours de quelque chose à l'université.
Non, c'est juste qu'elle aime ça.
Mylène, elle était dans les shows d'humour il y a 20 ans. Là. Peut-être pas 20, là, mais 15 ans, ça c'est sûr, parce que moi j'ai commencé il y a 15 ans, puis elle était déjà là. T'sais. Elle était juste là en tant que fan, c'est quelque chose qu'elle a trippé, puis tranquillement, pas vite, elle s'est greffée au milieu. Puis aujourd'hui, ça fait en sorte que oui, c'est une fille qui connaît énormément le milieu, puis qui connaît beaucoup, qui a un instinct humoristique, mais en plus, qui pour moi est la personne parfaite avec qui travailler, parce que c'est avant tout une personne qui trippe sur le bon humour, tu sais, ouais, qui trippe avant tout sur la qualité. Puis je veux dire, moi c'était important, moi j'étais un passionné d'humour, c'est ce que j'aime le plus faire au monde. Puis quand je fais pas d'humour, moi tu sais, moi chez nous il y a pas de musique qui joue, c'est du stand-up là, je vais sur Netflix ou sur Apple Music.
C'est quand que tu as découvert cette passion? C'était en secondaire ou même avant ça?
Ah non, c'est après avoir commencé à faire de l'humour, moi.
Ah ouais?
Oui, oui. Non, non, moi j'ai un parcours.
Mais comment est-ce que tu as commencé?
Ben moi, en gros, là, moi, je viens d'une famille de médecins. Dans ma famille, c'est toutes des médecins. Fait que moi, quand j'étais jeune, le plan, c'était d'être médecin. C'était ça le plan, c'était tout ce que je connaissais. Tu sais, j'avais pas d'autres connaissances dans la vie où tu m'aurais dit, nomme 3 autres jobs que j'aurais fait, infirmier, puis secrétaire de médecin. Tu sais,
toute proche de ça.
C'était ma,
ouais,
vie, tu sais. Toute ma famille, les amis de mes parents, c'était tous des médecins. Donc, dans ma tête, c'était ça. Fait que moi, quand je me suis rendu compte, début vingtaine, que je pourrais pas être médecin parce que j'avais pas les notes, puis j'avais surtout pas l'envie de le faire, je me suis retrouvé comme devant rien. Tu sais, moi, 21 ans, là, je savais aucune idée. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas ce que j'aimais dans la vie, j'étais juste complètement perdu. Fait que moi je me suis inscrit à l'école de l'humour pour avoir quelque chose à faire pendant 2 ans. C'est vraiment ça là, ça aurait pu être l'école de ballet là. Tu sais, il y a rien qui m'a poussé à faire l'école de l'humour. Je savais que j'ai toujours été quelqu'un qui avait un esprit drôle, que j'étais capable de faire des jokes. Mais j'étais pas le comique, j'étais pas le clown de la classe, j'étais pas le class clown, zéro, moi. Puis j'étais même très gêné. Puis moi, quand j'étais accepté à l'école de l'humour, je me suis dit, bon, mais là, regarde, j'ai 2 ans où je vais rencontrer des gens, je vais côtoyer du monde le fun. Je vais, au pire, un jour, quand je serai avocat, je pourrais dire, hey, j'ai fait l'école de l'humour, moi. Tu sais, juste, ouais, dans ma tête, c'était ça, là. C'était l'école de l'humour, c'était juste.
Ça veut juste
notch on my belt, là. C'était juste.
Une petite partie de
ta vie. Ah oui, c'était juste ça, là. C'était juste pour l'anecdote, là. Tu sais, c'était pour. Ça va être intéressant un jour de dire à quelqu'un que j'ai fait de l'école de l'humour, puis on va en parler une demi-heure, puis ça va, on va passer à autre chose après, tu sais. Puis en faisant de l'humour, c'est là que je me suis découvert un talent pour ça. C'est la première fois dans ma vie que j'étais comme, je pense que je suis bon là-dedans, tu sais. Parce que, tu sais, même dans un sport, moi j'aime beaucoup le sport, mais j'ai jamais été bon dans un sport.
T'as jamais joué quelque chose comme le hockey?
Oui, j'ai joué beaucoup. Okay. J'ai joué à presque tous les sports, mais j'ai jamais été bon. Tu sais, j'ai jamais, il y a jamais rien dans ma vie que j'étais comme, que je faisais en me disant ça là, je suis meilleur que la moyenne. Ouais, jamais. Ouais. Que ce soit les études ou les sports ou les arts ou tu sais. Puis là, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je me suis dit, ah, ça, je suis meilleur que la moyenne. Ça, je pense que je suis capable de. J'ai un talent là-dedans. Puis c'est là que je me suis comme intéressé à ça et là que je me suis mis à découvrir un peu ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Moi, je suis parfaitement bilingue, je viens de Montréal, donc ça m'a permis de découvrir les humoristes américains très rapidement. Puis quand j'ai découvert le stand-up américain, là je dis américain, mais tu sais...
c'est quelque chose d'autre, je comprends. Complètement, c'est style,
parce que même moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, l'humour francophone... C'était encore très monologue. T'sais. C'était important d'avoir un sujet et de patauger là-dedans. T'sais, le stand-up, comme on le connaît aujourd'hui au Québec, ça n'existait pas. Puis c'était même mal vu. Là. Si tu changeais de sujet après
tout. Ah,
oui, oui, c'était mal vu. Oh. Ah, oui. C'était, honnêtement, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, quelqu'un qui arrivait et qui faisait juste comme hey, je suis allé à telle place, puis qu'après ça, je changeais de sujet, tu étais comme bah, il n'y a pas de travail là-dedans. Y a pas, tu nous racontes rien, tu nous parles pas de rien. Puis moi, c'était mon attitude, même au début. Puis quand j'ai découvert le stand-up américain, j'ai fait « Oh, OK, non, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a vraiment une façon d'enchaîner des sujets qui vont pas nécessairement ensemble, mais que tout ça a une couleur, tout ça a une énergie. » Puis ça m'a comme j'ai comme découvert quelque chose. Puis encore aujourd'hui, comme je te dis, moi, il n'y a pas de musique qui joue chez nous, c'est du stand-up. Là. Moi, si je me lève le matin, je vais mettre j'aime mieux mettre le troisième show de Bill Burr que de mettre Bruno Mars. Là, je vais écouter le deuxième show d'un tel. Là, puis, hey, un tel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. La musique, le rythme du stand-up, ça vient me chercher en dedans, ça me fait vibrer en dedans. D'entendre quelqu'un parler dans un micro, puis d'entendre des gens rire de ce qu'il dit, je sais pas pourquoi, j'ai même pas besoin d'entendre ce qu'il dit, j'ai même pas besoin de comprendre ce qu'il dit pour...
T'aimes la connexion qui se fait entre les deux.
Ça me fait vraiment triper, ça. Puis, c'est ça que j'ai découvert à travers ça, puis parce que, comme je te dis, quand j'ai commencé au Québec, c'était important c'est plus du monologue, puis c'était important de parler au public. C'était hack un peu, c'était cheap. C'était
le crowd work, c'était un peu hack?
Mais ça n'existait même pas, le crowd work. C'était même pas sur le radar. Juste de demander à quelqu'un. T'sais, moi, quand j'ai commencé, ça fait pas si longtemps, là, ça fait 15 ans, tout le monde riait des humoristes qui disaient avez-vous remarqué ou par applaudissement. Ça, c'était comme par applaudissement. Puis aujourd'hui, tu peux pas faire du mot sans demander aux gens qu'est-ce qu'ils vivent. C'est ça ma job à moi, c'est de parler de ce que je vis puis de voir si les gens connecte, si les gens se reconnaissent. Mais quand j'ai commencé, c'était très mal vu. Puis quand j'ai découvert l'humour américain, c'est là que j'ai découvert que, OK, le but, c'est de créer un contact avec le public, puis qu'ils se rejoignent là-dedans, puis de voir la vie d'une façon, juste de le twister, puis de parler de quelque chose que les gens ont vu à tous les jours, mais qui n'ont jamais vraiment pensé ou qui ne sont jamais attardés là-dessus ou que tu le tour d'une certaine façon ou tu le fais voir d'une autre façon. Puis c'est là que j'ai vraiment, que moi, mes horizons se sont ouverts. Là, puis j'ai fait, je pense que ça, je suis capable. Je pense que ça. Puis c'était tout ça, c'était inconscient, là, tu sais.
Mais je l'ai
senti, tu sais, que j'ai fait ça. Moi, je suis capable de. Moi, toute ma vie, j'ai été gêné. Moi, toute ma vie, j'étais le petit gars dans le coin, même d'un party de Noël à la famille, là, tu sais, je suis gêné. Moi, si tu me mets plus que 4 personnes d'une pièce, je parle pas. Puis ça a fait en sorte que je pense que j'ai développé un sens de l'observation. Le fait que je parlais pas quand j'étais jeune, ça faisait en sorte que là, j'observais, je remarquais, puis je me parlais tout seul, puis j'observais des choses. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que je suis capable de regarder une situation ou d'avoir une idée qui est juste à côté de ce que tout le monde voit.
Ouais, parce que toi, tu les regardes.
Ben, c'est ça, tu sais.
Ouais.
Puis je pense que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis un humoriste qui fait que les gens peuvent... qui est intéressant aussi, tu sais. Fait que... Mais, tu sais, tu regardes... Moi, c'est sûr, tu regardes... genre de 2000... Mettons, 2010 à 2015, là. Puis peut-être même 2006... Ouais, 2010 à 2015. Si tu regardes toutes mes vidéos de moi sur scène, là, tu peux dire, ça, c'est ma phase... Marc Maron, ça c'est ma phase Maniscalco, ça c'est ma phase Burr, ça c'est ma. Tu vois toutes.
Tu vois tes influences.
Tes voix, là, c'est clair. Il y a un moment donné, moi, quand j'ai découvert Marc Maron, je me suis pendant 3 mois, j'ai joué assis tout le long. Tu sais, j'étais juste sur un tabouret à parler. Quand j'ai découvert Maniscalco, là, je me mettais à jouer beaucoup puis à faire des gros. On les nommera pas toutes, là, mais. Toutes les petits, puis des fois j'en découvrais qui étaient pas très connus ou qui étaient pas connus du grand public. Puis je trouvais vraiment quelque chose là-dedans qui m'inspirait. Fait que tu le vois, là, tu sais. Puis au début, c'est inconscient, tu le fais. Tu le fais pas pour te dire je vais faire ce que lui fait.
Non, c'est à cause que tu vois ça.
Ça vient tellement chercher. Naturellement, tu joues la musique que t'aimes, là, tu sais. Ouais. Dire, si t'aimes le heavy metal, il y a personne qui aime le heavy metal qui fait du jazz, là. C'est normal. Fait que. Mais ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un, dans mon style, il y a un beau mix de plein d'influences que j'ai vues en découvrant l'humour américain. Fait que, je me rappelle pas c'était quoi ta question initiale.
Non, comment est-ce que tu as commencé? Mais tes parents ont dit quoi quand t'as dit, écoute, je vais pas devenir médecin, ni vétérinaire? Étais-tu choqué un peu?
Non, il était pas choqué. Il était surtout vraiment nerveux parce que, j'étais en train de leur dire que je m'en allais dans un monde qu'ils ne connaissaient pas, mais pas du tout. Tu sais, l'humour pour eux, là, c'était Pierre Légaré à Juste pour rire. Là, je dis, ils comprenaient pas comment un gars de 21 ans peut faire ce métier-là.
Rentrer dans le showbiz. Ouais.
Dans le showbiz. Puis le pire, c'est que moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, en entrevue, si tes enfants te disaient qu'ils voulaient être humoristes, qu'est-ce que tu ferais? Puis j'ai dit, j'aurais la même réaction que mes parents. Puis moi, je sais c'est quoi, là.
Ouais.
C'est ma vie, c'est ma passion. Mais si ma fille me disait, je veux devenir humoriste, demain, je m'en vais à l'école de l'humour, j'aurais un stress en dedans de moi. Parce que moi, je le sais c'est quoi, puis je le sais à quel point c'est tough. Fait que je veux même pas imaginer mes parents. Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi que, comme je te dis, mes parents m'ont jamais entendu faire une joke avant la première fois qu'ils m'ont vu sur scène. Je suis pas un gars drôle. T'sais, dans ma famille, j'étais pas le clown. J'étais pas celui qui faisait rire tout le monde. Puis qu'à Noël, tout le monde est comme « Hey, Simon, fais ça, fais telle affaire. »
Mais c'est pour ça que ça fait bizarre. Ils sont comme « Quoi? »
Ah non, c'était ça. J'étais juste comme... Puis moi, je leur ai dit une fois que j'ai été accepté à l'école de l'humour, je leur ai pas dit « Je vais faire les auditions. » J'ai été accepté, puis je leur ai dit après. Fait qu'ils ont été comme un peu devant le fait accompli de faire comme, OK, c'est pas genre, hey, j'aimerais ça faire ça, c'est hey, je vais faire ça, j'ai été accepté puis je vais le faire. Fait que ça a été comme un choc de, pour mes parents, ça a été une espèce de, what the fuck, t'es zéro drôle, puis deux,
on est tous des médecins.
C'est quoi? Qui
t'a influencé de faire ça?
C'est ça,
ouais.
C'était juste un gros what the fuck qui était comme... Puis là, est
venue la nervosité. Que c'était une phase?
Bonne question, je sais pas. On n'en a jamais vraiment reparlé parce que avec les années, ils ont comme... Tu sais, il y a eu plusieurs phases d'acceptation, tout ça. À un moment donné, ils ont juste accepté que j'aimais ça, faire ça. Ouais. Après ça, ils ont accepté que Colin, je pense qu'il y a un talent là-dedans. Puis, tu sais, il y a eu plusieurs moments dans ma carrière qui ont aidé à ce qu'aujourd'hui, tu sais, mon père, il vient voir toutes mes shows.
Ah oui, ils sont habitués puis ils sont heureux.
Mais ça a été long, tu sais, avant que mon père puisse assister à un de mes spectacles, ça a été long là, parce qu'il était. Il y avait comme une espèce de stress. Puis même encore aujourd'hui, là, il est comme. Ça le stresse vraiment beaucoup. T'sais.
De te voir, il est nerveux.
Parce que,
hein?
Tu sais, genre, il a peur que j'aille un blanc ou il a peur. Puis j'arrête pas de dire, pas s'il y a un blanc. Ça fait 15 ans que je fais ça. Là. Je m'en sors. Là,
je suis
capable. Là, puis même si le public est mollo, si le public est pas terrible, je suis capable. Je sais ce que je fais. Mais.
Je le comprends parce que c'est bizarre pour le monde qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait sur la scène. quand il me parle à moi aussi, il me dit toujours la même chose. Comment est-ce que tu te rappelles de Dieu si tu as peur?
Ouais,
comment est-ce que tu parles aux gens? Pourquoi tu es calme si ça marche pas? Mais maintenant, je suis habitué. Au début, je n'étais pas calme si ça ne marchait pas.
Mais, non,
mais tu t'habitues après des années.
C'est ça.
T'as-tu pensé à faire ça parce que tu es bilingue en anglais aussi?
Peut-être qu'un jour, je vais le faire. Mais en ce moment, je ne ressens pas le besoin de le faire.
Comme besoin, juste par curiosité.
Ben, c'est ça l'affaire. C'est que je me le suis souvent demandé, puis Mylène m'en parle souvent aussi parce que c'est ça, tu sais, je suis parfaitement bilingue, j'ai pas vraiment d'accent en anglais. Je suis capable de. Je serais capable d'en faire sans problème. Mais moi, si je fais quelque chose, je le fais pour de vrai ou je le fais pas.
Ah ouais, alors si tu fais ça, ça doit être moi, vraiment.
C'est ça, ouais, c'est même chose pour quand le monde me demande, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, des fois des Français qui m'écrivent en disant comme hey, ton style pourrait fonctionner en France. Puis tout le monde est comme, tu sais, au pays, vas-y 6 mois. Puis je suis comme, non, moi, si je vais en France un jour, c'est avec un billet d'aller, pas de billet de retour. Tu sais, je veux pas comme y aller 6 mois. Fait que même chose en anglais, tu sais, pour moi, je fais 3 shows. Après 3 shows, soit que je suis juste content parce que ça a bien été, ou soit que je suis démoli parce que ça a pas bien été. Fait que je vois pas vraiment pourquoi je ferais ça encore. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, puis c'est de plus en plus populaire, là, les humoristes francophones qui le font en anglais, qui s'essayent ou qui le font pour le fun. Mais moi, de le faire une fois,
Parce que je sais comme Mike, par exemple,
je serais juste comme trop stressé. Je serais juste comme trop stressé de le faire. J'en profiterais pas. Fait que pour moi, c'est si je le fais, si un jour je fais de l'humour en anglais, c'est avec pas un billet d'aller puis pas billet de retour.
Je le fais une fois.
Jusqu'à temps que je me rende compte que ça marche juste pas ou que je suis pas capable. Ou que je suis arrivé au bout de mon énergie. Mais de le faire 3 fois pour le faire 3 fois.
Alors, moi, quand je dis ça, moi, je veux te voir comme de continuer. Parce que comme Mike, il fait les deux. Il fait toute une tournée en français, tout comme noir maintenant. Mm-hmm. Puis après, il fait en anglais. Il fait la captation. Puis toi, si tu es parfaitement bilingue puis tu es drôle, ce serait fun de voir ça. Ben, moi, je pense qu'il y a un public pour ça.
Ah, définitivement. Puis je pense que C'est clairement quelque chose qui est dans ma tête, qui roule dans ma tête, mais comme je te dis, je ferais pas français-anglais. Moi, c'est anglais ou français. Si un jour, je fais de l'anglais…
Oh, tu veux dire sur la scène?
Oui.
Oh, moi, puis j'ai l'accent. Quand je fais des shows en français, c'est juste en français. J'évite les mots…
Ah non, c'est pas ça que je veux dire, dans le sens que si je me concentre à faire des shows
en
anglais…
Deux en même temps.
Je veux juste faire des shows en anglais.
Oh, mais ça, c'est bon… Ta vision est bonne parce que c'est bon de voir comme ça. Si tu vas consacrer ton esprit, ton temps dans quelque chose, tu vas mettre 100%, puis tu ne veux pas mettre 50-50.
Non, c'est ça.
Non, ça, ben, c'est une bonne point de vue. Ouais.
Parce que, tu sais, j'ai parlé à beaucoup d'humoristes qui en ont fait un peu en anglais, puis qui, des fois, juste de temps en temps, vont le faire. Je sais qu'il y a 2 ans à peu près. À Juste pour rire, justement, il y avait comme un show spécial où c'était des humoristes francophones qui le faisaient en anglais.
Mais ça, c'est juste une one-off, juste pour niaiser un peu.
C'est correct. Mais moi, personnellement, tu sais, moi, j'aime. Pour moi, mon je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, si ça rit pas à mon goût, j'ai pas de fun.
Ouais, oh, bien sûr.
Tu sais, il y a des humoristes qui sont capables d'avoir juste du fun, juste à être sur scène.
Même si ça rit pas. J'ai déjà vu ça, ouais.
Puis ça me fascine, ça. Puis tu sais, il y a des gens qui... Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui disent, que j'entends souvent dire, puis qui, tu sais, mettons qu'ils vont revenir de, je sais pas moi, de 2 semaines de vacances ou qui n'ont pas fait de scène depuis 2-3 semaines, qui sont comme, hey, là, j'ai besoin de monter sur scène. Ah. Moi, j'ai pas ça.
Oh, t'as pas ça?
J'ai pas ça. Moi, j'ai pas ce besoin-là. Je le fais parce que c'est ce que j'aime le plus faire au monde. Puis c'est parce que c'est ce qui me rend heureux, c'est mon travail, ça me motive, j'ai le goût d'être le meilleur possible. Mais j'ai pas ce besoin-là, moi, de monter sur une scène puis de parler à des gens.
Oh, donc, ouais, c'est ça que tu... Ouais, moi, j'ai
donc, pour moi, si je le fais en anglais, c'est pour être bon en anglais.
Exactement.
C'est pas juste pour le faire.
Non.
Parce que j'ai besoin de le faire ou parce que j'ai un défi en dedans de moi. Si je le fais en anglais, c'est pour être reconnu comme un très bon humoriste anglais, tu comprends?
Ah, moi aussi, quand je fais français ou anglais, je veux faire bien.
C'est ça.
Je teste des choses. Oh, fuck, ça n'a pas marché, je dois tester ça.
C'est ça.
C'est ça que j'aime. Mais je suis d'accord avec toi. C'est jamais comme je dois être devant... C'est du monde, juste pour parler. Ça, non, ça, j'aime pas ça.
J'ai besoin de faire mon métier. Ouais. J'ai besoin, je me rends compte que si je fais pas de la scène, si je fais pas mon métier, les idées roulent dans ma tête, puis à un moment donné, ça fait juste s'empiler, puis à un moment donné, il faut que ça sorte. Mais ce besoin-là d'être sur scène, c'est pas un besoin physique que j'ai, c'est une envie.
Ouais, c'est une envie, mais c'est deux quand même types d'humoristes différents.
Ouais.
Parce qu'il y en a des humoristes, tu as totalement raison, puis j'en ai des amis comme ça, que c'est juste la performance. C'est juste d'être là, même si ça ne se rit pas, juste d'être là, pour eux, c'est déjà le fait accompli. Oh, c'est fini. Pour moi, c'est vraiment différent. Moi,
j'ai 100% de respect pour ça, là.
C'est mes amis.
Ben oui.
Mais je veux dire, moi, c'est vraiment, je vois que ça connectait. Pourquoi? C'est-tu le mot qui a connecté? Ils pensent comme moi ou c'est juste la façon que je dis? Je pense à tout. Puis si quelque chose ne marche pas, quand je sors, je pense vraiment. Je suis comme, pourquoi ça ne marche pas comme ça? C'est-tu parce que j'ai changé de la place? Peut-être si je le mets comme ça, comme, c'est un peu perfectionniste, puis c'est jamais parfait, mais ça rentre dans ma tête, mais c'est jamais comme, j'ai besoin d'avoir du monde devant moi. C'est vraiment, j'ai juste besoin de parler, de sortir les mots, puis voir si ça marche. C'est les choses que tu écris, si ça sort bien sur la scène. On est un peu fucké comme ça, on a tous des petits...
Ouais, c'est ça, on est des drôles, on est des drôles de phénomènes quand même.
Ouais, on...
C'est une job où il faut être... cette job-là, la job d'humoriste, remplit des besoins qu'aucune autre job peut remplir, tu sais. Moi, je suis fait pour être humoriste dans la vie, tu sais. C'est ça. Je suis fait pour ça.
Ouais.
Il y a aucune autre job. Mais quoi que c'est pas vrai, j'ai travaillé en pub, moi, pendant 2 ans, puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
En pub?
Ouais, j'ai été concepteur publicitaire.
Ah ouais, c'était fun?
J'étais writer, là.
Ouais.
J'ai adoré ça.
Alors, tu sais, c'est quoi, toi? C'est juste un ajout, c'est une bonus que t'es drôle, puis ça aide. Mais toi, je pense que c'est parce que t'as beaucoup de créativité.
Ouais.
Puis à cause que t'es drôle, stand-up, c'est parfait pour toi. Mais tu peux faire d'autres choses qui ont besoin. Le requis, c'est vraiment d'être créatif.
Ben, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, je dis ça, puis j'ai fait de la pub pendant 2 ans, puis je suis revenu à l'humour parce que ce côté-là de faire rire un inconnu, là, c'est la plus belle chose au monde, là. De faire rire quelqu'un qui est là qui te connaît pas, c'est tellement... Puis quand tu sens que tu l'as, là, tu sais, quand tu sens là, que là, il est de ton bord, là, puis des fois, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est ça le trip. Puis des fois, ça marche pas, mais moi, ma job, c'est d'essayer. Puis j'ai jamais été du genre, moi, à faire comme, abandonner d'avance parce que, tu sais, il y a quelque chose qui revient souvent en humour, c'est quand ils disent, il y a beaucoup de têtes blanches, tu sais, c'est beaucoup de vieux, fait que, attends. Je suis comme, OK, on va, c'est sûr, c'est un contexte différent, mais moi, ma job, ça reste quand même de les faire rire, ces gens-là, ils sont là pour ça, c'est mon, tu sais.
Ouais.
Je suis pas là pour moi, je suis là pour eux, tu sais.
Ouais.
Puis, dans mes salles, moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de diversité d'âge, tu sais, puis une madame avec des cheveux blancs et des petites lunettes qui rit d'une joke de pète, là, mon gars, c'est une des plus belles choses au monde. Là. C'est
Une petite
madame là, qui rit d'une joke de batte, là, man, c'est incroyable.
Est-ce que ça t'a déjà arrivé que... Je demande ça parce que ça m'est arrivé à moi, puis j'aime parler sur un podcast, mais je me souviens au Comedy Nest, ça fait des années. J'étais booké, c'était le week-end. Puis c'était une journée vraiment fuckée. Toutes des mauvaises nouvelles, j'étais presque en dépression. Rien marchait cette journée-là. Puis j'étais un peu down, puis je sors, je vais sur la scène, puis je dis, hey man, je dois faire mon mieux possible
pour
le public. Puis au premier joke, juste en avant, je regardais le couple, puis il riait fort, comme toute une soirée comme ça. Puis ça m'a fait, à cause que j'ai regardé, moi je commençais à rire, puis j'ai continué, puis j'ai oublié tout, puis j'ai fait mon set, puis j'avais oublié tout mon stress. C'était le temps où c'était inconscient, mais j'avais compris, ça travaille des deux angles. C'est pas juste pour eux. Two way street. Nous, puis ça, tu peux pas expliquer ça à quelqu'un qui fait pas le stand-up. Toi, je te dis ça, puis tu comprends qu'est-ce que je veux dire.
100%.
J'essaie d'expliquer ça à du monde qui sont pas dans le stand-up. Je dis, je comprends pas. T'étais déprimé, puis quelqu'un a ri à ton joke, puis après t'as oublié, puis t'es heureux. Je dis, oui, c'est parce qu'ils me comprennent. Si tu ris, ça veut dire que tu comprends quelque chose. Si tu comprends le sens d'humour de quelqu'un, tu le comprends. Alors, c'est juste...
Mais c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est ça. T'sais, c'est comme... un inconnu qui rit de ce que tu viens de dire, tu n'as pas pur amour et appréciation que ça, tu sais. Puis, je suis tellement à 100% d'accord avec toi. Souvent, il y a des... Quand les gens, des fois, tu sais, après les spectacles, des gens qui m'écrivent, tu sais... puis ils disent « Hey, tu sais, je passais un moment difficile, merci, puis tout ça. » Puis à chaque fois, je leur réponds « Ouais, mais vous faites la même chose pour moi, tu sais. Moi aussi, là, ça m'arrive, moi, d'avoir des mauvaises nouvelles, puis d'être pas bien ou de m'être vide du mauvais pied ou de m'être pogné avec... je me suis pogné avec ma blonde ou j'ai reçu une mauvaise nouvelle ou j'ai mal dans le dos. Ouais. Ou, ça arrive, là. Puis le public qui rit de tes choses, ça te fait complètement oublier. Fait que c'est complètement... T'as tout à fait raison. Ça a deux sens, là. Complètement.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Écoute, Simon, on doit finir l'entrevue. Oui, à cause que ici on a des limites. Mais c'est sûr que tu reviens au studio et on va faire un vrai podcast ensemble.
Quand tu veux.
Qu'on n'a pas de limites. Mais quand même, moi, je pense que c'était une bonne entrevue. Moi,
absolument. Oh, oui, c'était très excellent. Agréable. C'est juste, ça a passé de même.
Ça passait vite, puis c'était, je pense, un peu plus long que les autres, mais ça passait vite parce que c'était une bonne conversation. Tant c'est mieux. Pour ça que je te dis déjà, on va avoir ton horaire et tout ça, mais tu vas venir au studio, ça va être du fun.
Mais OK, quand tu veux.
Ça. Je veux te remercier. Merci d'être venu.
Ben, merci à toi.
Et on va faire ça bientôt.
Quand tu veux.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.